les rues du combat du croyant, marcher en Christ en vue de la maturité. Les rues du combat du croyant, marcher en Christ en vue de la maturité. Ce message sera construit sur Colossiens, chapitre 2, qui venait de nous être lu à partir du verset 6. Pourquoi ? Parce que depuis quelques semaines, si vous êtes régulier dans les cellules, vous constaterez que c'est le livre de Colossiens qui attire notre attention pendant cette période. Si vous venez aux études bibliques, c'est encore là que nous centrons nos études bibliques pendant quelques semaines. Il a été important d'aider ceux-là qui ont décidé de ne pas aller dans les cellules, ceux qui ont décidé de ne pas venir à l'étude biblique le jeudi, pour qu'eux aussi soient nourris à la source à laquelle le Seigneur est en train de nous nourrir ces temps-ci. Le passage que nous avons lu dans Colossiens au chapitre 2 à partir du verset 6 dit ce qui suit. Je suis là. Poursuivez toute votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, et débordant de reconnaissance. Pourquoi les croyants devraient-ils poursuivre sa route? Devraient-ils être enracinés en Christ, être fondés et affermis en lui? La vie chrétienne est bibliquement perçue comme une marche, mieux comme un voyage qui est amorcé dès le moment où la parole, l'évangile de la mort et résurrection du Christ est annoncé. Et cet évangile qui nous invite à accueillir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous recevons le Christ dans notre vie, cela n'est qu'un point de départ. Un point de départ comme un petit pas que je fais et qui entreprend un voyage qui doit me conduire, marquer fondamentalement toute ma vie. C'est ce pas décisif qui est d'accueillir Jésus dans ma vie pourrait aussi être comparé à une inscription dans une école. Venez avec votre dossier pour faire inscrire dans une école secondaire, parce que j'ai des jeunes qui sont à l'école secondaire ici. Ou alors, vous faire enrôler dans un institut supérieur ou dans une université. Ou tout simplement un début d'une vie professionnelle dans une organisation ou alors dans une entreprise. Peut-être encore une volonté qui s'exprime par deux jeunes gens qui décident de venir devant le pasteur, devant l'église pour solliciter la bénédiction de leur mariage. Cela est un voyage. Cela est une nouvelle marche dans laquelle on s'engage qui ne voudra rien dire si nous ne faisons pas attention aux conséquences de l'engagement que nous sommes en train de prendre. Ou tout simplement, si nous n'intériorisons pas que ce que nous venons de commencer doit se développer ou alors s'enraciner dans notre expérience quotidienne, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est ainsi que ce matin, il y en a qui ne pourront peut-être pas venir au culte en disant « il a plu ». Mais ceux qui savent que cette rencontre avec le Seigneur est importante ont décidé de venir même sous la pluie. Et que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de gens ont accueilli la grâce de Dieu, mais ne l'ont pas laissé s'enraciner dans leur vie familiale, dans leur jeunesse, dans leur vie professionnelle, ou alors dans leur engagement politique, parce que nous avons des hommes et des femmes politiques. Ils ne l'ont pas intériorisé, et ça crée des problèmes. Bien-aimés, comme je suis en train de vouloir le souligner, la vie chrétienne a un début. Mais ce n'est qu'un voyage qui doit se poursuivre sans interruption, sans atermoiement. Parce que la grâce qui rend possible notre appartenance à Christ est tellement puissante. Mais, elle ne peut opérer dans notre vie que dans la mesure où progressivement, nous nous laissons entraîner dans cette marche en Christ. Alléluia. Il y a eu des personnes qui ont fait des grands engagements solennels. Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure. Ils ont commencé très bien. Mais parce qu'ils n'ont pas perduré, parce qu'ils n'ont pas goûté combien le Seigneur est bon, comme le dit Pierre, si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 à 2, il est dit ceci. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, il faut faire quoi? Désirer les laits spirituels et purs. Cette capacité de désirer, ce n'est pas de vouloir, mais de désirer du fond de son cœur cette parole qui est le lait spirituel et pur. Comme un enfant qui ne se nourrit pas du lait de sa mère, qu'est-ce qui le menace? C'est la mort. Vous pouvez mourir alors que vous avez très bien commencé. C'est donc une expérience importante, bien-aimée, je ne le dirai jamais assez, d'écouter l'évangile qui nous amène à nous réjouir, d'avoir reçu le pardon de toutes les fautes que nous avons commises par le passé. Mais cela peut perdre son sens si nous n'habituons pas nos cœurs à haïr le péché, à fuir le péché et à rechercher la sanctification sans laquelle, dit la parole de Dieu, personne ne verra le Seigneur. C'est bien beau de s'élever dans une campagne d'évangélisation. C'est bien beau de s'élever dans un culte pour répondre solennellement à l'appel de recevoir Jésus. Mais je dois prendre le temps d'écouter le Seigneur me parler chaque matin dans la discipline, dans un cœur accueillant cette parole, dans une consécration totale à Dieu, parce que ce qui a bien commencé peut nous s'arrêter. Ce qui a bien commencé peut s'effriter. Ce qui a bien commencé peut, à un moment donné, t'amener à faire piètre figure comme croyant, comme chrétien, et tu déshonores le Christ plutôt que de l'honorer. Les voyages qui commencent donc avec Jésus a des exigences. Et c'est de ça que je vais parler dans cette prédication de ce matin. Que je considère comme des exigences de taille. Il y a donc un combat rude, comme j'ai intitulé le message de ce matin, à soutenir dans la vie de foi. Parce qu'on ne devient pas mature automatiquement. Non, on devient mature parce qu'on s'est soumis à une quelconque discipline du moment où vous avez commencé jusque dans la vieillesse. Il y en a qui croient qu'on va vivre la vie chrétienne jusqu'au mariage. Et quand on est marié, on est arrivé au ciel. Ah, il y a des filles qui pensent comme ça. Il y a des mamans qui ont perdu même parfois ce qu'elles avaient parce que le mariage est arrivé. Il y en a qui ont perdu parce que le diplôme est arrivé. Il y en a qui ont arrivé parce que l'ascension sur le plan social est arrivée. Il y en a qui ont perdu parce qu'un enfant est arrivé. Bien-aimés, nous devons vous dire que les combats rudes que nous sommes appelés à soutenir doivent se traduire par ce qui suit. Marcher en Christ. Ce marcher en Christ, nous terminerons par trois images que Paul a utilisées dans ce passage. Marcher en lui selon la Bible Second, ou poursuivre sa route dans le Christ, selon la Bible Théobée. Parce que, comme je venais de le dire, c'est une chose que de commencer, c'est une chose que de recevoir le Christ, mais ça n'est une autre que de continuer à le suivre dans l'humilité et dans l'obéissance. En d'autres termes, la question qui nous vient en tête, c'est pour quelles raisons il insiste sur l'attachement à Christ. Pourquoi cet attachement à Christ a une si grande importance? L'attachement ou l'union à Christ apporte avec soi les bénédictions insoupçonnées que Dieu nous réserve et qui se réalisent dans la vie du croyant dans quatre versets que nous soulignons ici. Il y a le verset 9, le verset 10, le verset 11 et le verset 12. Je vais encore le relire. Je commence par les versets 9 à 10. C'est en lui qu'habite toute la plénitude de la divinité, corporellement. Et vous vous trouvez comment? Pleinement comblé en celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. La première chose à souligner, c'est que le croyant est pleinement comblé, parce qu'en Christ habite toute la plénitude de la divinité. Par le Christ, Dieu qui habite au ciel a choisi d'habiter dans ton cœur. Il a choisi d'habiter dans mon cœur. Il a choisi de faire de nos cœurs sa propre demeure. Et donc sa présence dans nos vies change tout, donne une nouvelle orientation à notre vie et fait que notre présence sur la terre a une signification inimaginable. Si tu es une femme mariée, ton mari devra constater que Dieu habite, que Christ habite. Si tu es un papa, tes enfants devront constater que Christ habite. Ta femme devra constater que Christ habite en toi. Tes collègues de service, même si tu es chef de service, devront constater que Christ habite en toi. Donc cette présence n'est pas une présence au bout des lèvres. Elle est une réalité. Parce que dans le verset 27, il dit, au chapitre 1, il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. La présence du Christ dans la vie du croyant appose un cachet spécial à sa vie. Il lui donne une nouvelle identité, autre que celle qu'il a reçue de ses parents. Autre que celle qu'il a reçue de sa tribu, de son ethnie. Cette présence à elle seule sécurise la vie du croyant. Bien-aimé, quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, combien de nos contemporains sont passés à côté de l'essentiel. Ils tentent d'améliorer leur vie par l'accumulation des biens gagnés très souvent par la corruption. L'histoire de la RDC est très triste. Avec l'accès au Sénat, avec l'accès à la devenir gouverneur des provinces, ça s'est fait dans toutes les provinces. Où obtenir cette position se négocie au prix de 10 000 dollars, de 20 000, de 50 000. Et il semble même, je l'ai appris avant-hier, à 100 000. Quelle tristesse! Quel pays! Comment on peut en arriver là? Comment peut-on en arriver là où les gens qui ont été élus par le peuple, on leur demande d'être corrompus pour faire passer quelqu'un? Malheureusement, il y en a qui le font. J'avertis les membres de Goma Ouest qui sont dans ces cercles-là de faire attention. Il y en a qui vivent des détournements de fonds. Le kidnapping est devenu un moyen de s'enrichir. Et il y a même qui construisent des maisons ici à Goma parce qu'ils ont fait des trafics humains. Est-ce qu'il n'y en a pas que cela les églises? Non, pas de Goma Ouest. Il n'y en a pas. Il y en a qui ont fait la prostitution aussi une profession. Plus on accumule, malheureusement, moins on est satisfait. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un cœur, il y a un vide dans le cœur de l'homme à la dimension de qui? De Dieu. C'est-à-dire que là où il y a un vide intérieur, ce ne sont pas les biens de ce monde, ce ne sont pas les maisons qu'on s'est construites dans la corruption, ce ne sont pas les diplômes et titres que les gens aujourd'hui sont en train d'avoir par tricherie, parce qu'il y a même des diplômes aujourd'hui que les gens ont par tricherie. Des gens ne sont pas en mesure de les diriger, une mémoire, un TFC, ils se font diriger même par leurs assistants ou chefs de travaux pour les payer. Il semble même qu'il y a des grands diplômes qui vont dans ce sens, je ne sais pas. Ce n'est pas non plus le mariage, ni les enfants, ni les positions qu'on occupe. Rien de tout cela ne peut combler nos cœurs. Seule la présence de Dieu, la présence du Christ dans nos vies peut combler nos vies. Alléluia! Cette présence-là peut combler nos vies. Mais lorsqu'il y a cette présence, il y a des risques à prendre. Quels sont ces risques? Parce que la présence de Dieu est manifeste dans ma vie. Je prendrai le risque de rendre grâce à Dieu. Je prendrai le risque de rendre grâce à Dieu par mon offrande. C'est un risque. Mais ce n'est pas un risque. C'est un risque de foi. Je prendrai le risque de venir avec ma dîme à la fin de chaque mois. De rendre grâce à Dieu à la dimension de la grâce que je dois rendre à Dieu. Tu as construit une maison de 50 000 dollars et tu viens rendre grâce à Dieu avec 50 dollars. Tu as rendu grâce à qui? Pas vraiment Dieu. à la dimension de la bénédiction que j'ai reçue de Dieu. Je sais qu'il y a des choses que les gens ne me veulent pas entendre, mais il faut qu'on les dise. Je prendrai aussi le risque de faire des dons et libéralités pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, en croyant que Dieu, pour lequel je prends les risques, ne manquera pas de me récompenser. Alléluia. Je donnerai aussi généreusement quand je suis assuré que Dieu pourvoira à mes besoins. Je pourrai aimer de tout cœur mon mari, ma femme, mes enfants, parce que je considère que ma famille est ma toute première paroisse. J'aimerai toute personne parce qu'en le faisant, je traduis par cet amour l'amour de Dieu qui habite en moi, quelle que soit cette personne. Je promets le risque de pardonner, même les pardonnables, parce que je suis convaincu que Dieu qui m'a tant pardonné ne peut que m'inviter à pardonner. Si je ne pardonne pas, il ne pardonnera pas encore les péchés. Je prendrai aussi le risque de prêter sans attendre qu'on me retourne ce qu'on m'a pris. Même si on ne retourne pas, je n'amènerai pas la personne au tribunal. Et j'attendrai que Dieu me repère. Je pourrais aider ceux qui sont affamés. Mais ce n'est pas une occasion de dire, prendre les dettes, même si je ne paye pas, Dieu va payer. Je mettrai en aide à ceux qui sont affamés. Je donnerai des habits à ceux qui en manquent, parce que je suis convaincu que Dieu le voit. Et il me les retournera. Deuxième chose à souligner dans ce passage, c'est le verset 11. C'est dans l'union à Christ que notre type de circoncision s'opère. C'est ce que dit le verset 11. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision, la main de l'homme n'est pour rien, et qui vous a dépouillé du corps charnel, telle est la circoncision du Christ. Cette circoncision est différente de celle que les Juifs avaient dans la chair, dont ils étaient fiers. C'est ici une transformation intérieure dans laquelle s'accomplit la promesse qui avait été faite à Ézéchiel. Je ferai de vous sur vous une aspersion d'eau pure. Vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos iniquités, de toutes les impuretés et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf. Et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre cœur les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois. Gardez et pratiquez mes commandements. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 25 à 26. Il n'y a que Dieu qui peut opérer cette transformation-là. Beaucoup de gens ont osé, ils ont trompé, ils ont dit qu'ils ont commencé. Il y en a même qui croient que quand ils buvaient l'alcool, qu'ils ont abandonné l'alcool, ils ont commencé la vie chrétienne. C'est faux. C'est la morale. Sans la présence du Saint-Esprit en moi, je ne serais même pas capable d'abandonner tout ça. La circoncision des cœurs ici est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui fait que l'homme livré à lui-même est circoncis l'intérieur. On pourrait même dire que cette circoncision opère la circoncision de sa façon de vivre. Seul le Saint-Esprit rend possible donc une vie authentique, une vie rayonnante. Une vie chrétienne authentique et une vie chrétienne rayonnante. Et il ne peut y parvenir que si je suis sensible à la voix du Saint-Esprit et je me laisse conduire par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, dit Paul aux Galates, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Troisième et dernière chose, dans l'union avec le Christ et par la foi à la puissance de Dieu, le Christ, nous ressuscitons avec le Christ. C'est ce que dit le verset 12, même Colossiens 3, verset 1 à 3. Le verset 3 d'ailleurs dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu, avec Christ devant Dieu. C'est-à-dire que en Christ, notre vie est dissimulée, elle est sécurisée. Il n'y a pas de crainte à se faire, comme l'a dit l'officiant ce matin, il faut bannir la crainte, il faut bannir la frayeur, il faut bannir l'angoisse. Prenons courage et vivons chaque jour notre vie chrétienne, car le salut est certain. Il ne faut pas commencer en disant, peut-être je peux encore tomber. Et tu alimentes ça dans ton cœur. Oui, tu peux tomber si tu ne te laisses pas conduire ou marcher en Christ. Mais il faut seulement marcher en Christ et les risques sont plus là. Les sorciers, parce qu'il y en a qui opèrent des sorciers tout en étant chrétiens, quand il y a un chat qui vit dehors, quand il y a une souris, ils ont inventé le terme boimulose, poussimulose, ils ont peur. Je connais un pasteur que les sorcières visitaient, et quand ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé la maison en train de brûler. Est-ce qu'on va visiter quelqu'un dont la maison est en feu? Pourtant, il était là en train de dormir. Alléluia. Mais ils ont seulement vu que sa maison était en feu. Et notre frère, les sorciers l'ont visité. Et quand ils sont arrivés dans sa chambre, ils ne l'ont pas trouvé. Pourtant, il était en train de dormir. La Bible dit, notre vie est cachée en Christ. Devant qui? Devant les Seigneurs. Trois images sont utilisées pour expliciter ce que marcher avec le Christ signifie de façon pragmatique. La première, c'est être enraciné en Christ. C'est-à-dire que nous devons trouver racine en Christ. Comme une plante ne peut porter de fruits que si elle s'enracine dans la terre. Il faut qu'elle entre profondément dans la terre. S'il y a des pierres, cette plante-là ne portera pas de fruits. Mais il faut qu'il y ait de la bonne terre. Il faut que notre cœur soit une bonne terre où la parole de Dieu trouve racine. Il ne faut pas être ici pendant que tu es en train de penser à tes rendez-vous après l'écriture. Si la parole de Dieu marche, c'est la même. Il faut que cette parole trouve racine quand tu la médites personnellement dans ton cœur. Parce que c'est comme une plante qui t'enracine dans la terre, de manière que de là vient la sève qui passe à travers les racines, monte dans les troncs et va jusqu'aux branches pour que les branches portent quoi? Portent des fruits. C'est ce que d'ailleurs Jésus a dit, demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que les sarments, s'ils ne demeurent, si la vigne ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là fera quoi? Celui-là portera du fruit. Comment? En abondance. Comment se fait-il qu'il y en a trop peu qui portent le fruit en abondance? Parce qu'ils se s'enracinent en qui? Ils ont laissé la parole s'enraciner dans leur vie. Ils ont enraciné leur vie en Christ. Parce que sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4 à 5. Deuxième chose, il faut construire sa vie sur lui. Nous avons lu un passage dans Matthieu chapitre 20, chapitre 7, verset 24 à 25, mais on a commencé par le verset 13 à 14 qui dit « Entrez par la porte étroite, parce que large est le chemin qui conduit à la mort, et il y en a beaucoup qui passent par là. Mais petit, étroit et resserré est le chemin qui conduit à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il ne faut pas être parmi plusieurs qui vont aller à l'enfer, mais il faut être parmi les peu là qui marchent sur le chemin étroit avec le Christ. Si difficile soit ce chemin, il faut tenir. Mais le verset 24 à 25 nous parle de celui qui écoute la parole et qui la met en pratique et semblable à celui qui a construit sa maison sur le roc. Il y a eu des pluies qui viennent. Les vents ont soufflé. Les torrents sont venus. Mais cette maison est restée stable. Mais celui qui ne met pas cette parole en pratique est semblable, est comparé à un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Il y a eu des pluies diluviennes, il y a eu les torrents, les vents ont soufflé. En tout cas, cette maison s'est écoulée. Soyons sensés, soyons sages, en nous laissant conduire par les paroles de la sagesse du Christ. Cette parole incarne la sagesse. Ces paroles vous donneront la grâce d'être sages plus que vos maîtres, comme le dit le psalmiste au psaume 119. Pour fuir la corruption, pour fuir les catastrophes qui agissent le monde, et les antiparoles qui font rage autour de nous. Enfin, il faut s'attacher de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qui a été enseigné. C'est quand on est affermi, quand on s'est laissé enseigner, quand on s'est laissé instruire par la parole de Dieu, on fait aussi preuve d'un engagement conséquent. C'est-à-dire qu'on va rester accroché à la foi qui m'a été enseignée et ne pas suivre n'importe quoi. Je suis triste de constater qu'il y a des frères avec lesquels on a commencé, avec lesquels on était dans les études publiques à Virunga, quand on commençait la vie de foi, mais qui se sont retrouvés dans les
dans les sectes ici à Goma. Je me pose la question, comment cela est arrivé?
C'est parce qu'on ne s'est pas attaché.
On n'a pas continué à marcher en Christ. On n'a pas laissé le Christ s'enraciner dans notre vie. On n'a pas conçu notre vie sur le Christ. Et on ne s'est pas attaché fermement à la foi. À la foi première, la foi initiale qui t'a amené à la foi. Parce que si on ne le fait pas, on est conduit à l'apostasie, à l'abandon de la foi. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à marcher en Christ. À nous enraciner en lui. À laisser Christ opérer dans notre vie pour que nous le prenions comme le roc, la pierre de fondation sur laquelle nos vies sont construites. Mais aussi, rester attaché à la parole qui t'a amené à la foi. Alléluia. Cette parole-là qui t'a amené à la foi, il ne faut pas de mélange. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Lorsqu'on a l'habitude de manger dans n'importe quel endroit, on peut ramasser des maladies. Et on peut avoir des situations compliquées. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à faire preuve d'engagement conséquent. Amen. Je voudrais prier avec toi si tu veux continuer à marcher en Christ. Je peux te mettre debout si tu veux continuer à marcher en Christ. Et faire tout ce que cette parole vient de dire. Prie pour toi-même. Particulière de nous rappeler ce matin que tu nous veux en toi. Marcher en toi, poursuivre notre route, celle que nous avons commencée lorsque nous avons donné notre vie à toi, Seigneur, et que nous avons compris que le monde doit perdre tout son attrait sur nous, que la chair doit perdre son attrait sur nous, et que le diable doit perdre aussi son emprise sur nos vies. Nous prions pour ces bien-aimés. Pour que tu aides chacun d'entre nous, oh Dieu, afin que nous puissions marcher en toi, nous laisser enraciner en toi seul, fonder nos racines dans tes pas, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, dans ce que tu nous dis et dans ce que tu nous, par lequel tu nous interpelles. Nous prions que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, oh Dieu de gloire, pour qu'il me soit accordé la grâce de saisir cette opportunité que tu m'offres. Que tu offres à mon frère bien-aimé ici, à ma sœur, afin que, oh Dieu, ce voyage qui a été commencé avec toi se poursuive, se développe, et que ce désir d'écouter la parole de vie reste ancré dans le cœur de chacun de nous. Accorde-nous, Seigneur, d'être comme des enfants qui désirent le lait, pour que nous aussi nous puissions désirer le lait spirituel et pur, le seul capable de nous conduire à la maturité en toi. Lorsque nous soumettons nos cœurs à ta parole, lorsque nous obéissons à cette parole, nous nous laissons véritablement que cette parole continue à opérer, à nous épurer, à nous plonger dans une vie que toi tu veux nous, dans laquelle tu veux nous entraîner. Nous prions que tu aides chacun d'entre nous, Seigneur, et ses bien-aimés, à fonder sur Christ, à construire toute leur vie sur Christ, leur vie familiale sur Christ, leur vie professionnelle sur Christ, leurs études sur Christ. Leurs entreprises sur Christ, leurs affaires sur Christ, tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, sur le Christ, même leur jeunesse sur Christ, afin que, oh Dieu, ils restent inébranlables et fermes, et qu'il n'y a rien même une fausse doctrine qui pourrait les amener à la dérive. Nous prions que tu bénisses ce bien-aimé Seigneur, afin qu'ils comprennent à quel niveau ils doivent rester accrochés à cette parole qui les a conduits à la foi, de continuer à méditer ta parole chaque jour, marcher selon cette parole et laisser cette parole les corriger, laisser cette parole les enseigner, laisser cette parole les instruire et les conduire sur les, et les garder sur le chemin de la vie. Bénis cette parole, Seigneur, et accorde-nous la joie de marcher avec toi jusqu'à ce que tu viennes chercher ton Église, jusque dans la vieillesse. Fais, Seigneur, que nous puissions poursuivre chacun la maturité dans la foi, pour que nous soyons des hommes et des femmes matures, affermis dans la foi, parce que c'est à ça que tu nous appelles. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.